rue juste à côté. Tout paraît si calme. On peut dire que c'est l'été qui berce sa palme. On peut dire que c'est l'enfer qui te déshabille et la honte qui te serre. Dans la rue, juste à côté, une femme pleure, les yeux creux, le dos courbé. Une femme a peur.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Anna, eh bien, je vais faire une belle surprise à mon mari pour son anniversaire. Oh, elle est belle cette cravate, il sera très content. Mais quoi? Il est là au lit avec une autre femme? Oh, mon Edmond, nom de nom. Mon Edmond, nom de nom.
Auditeurs et auditrices de Radio Libertaire, bonjour, ici Sylvie Spassem, avec les compliments de Gérard Durand, qui nous a offert un paix somptueux. Voilà. Mais en tout bien, tout honneur, comme on dit. Mm-hmm. Voilà pour cette nouvelle édition du début du de l'été, printemps-été.
Plutôt printemps.
Automne-hiver.
Oui, printemps. Ben, comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil.
Et surtout, gare au giboulé.
Ah oui, moment... on a eu. Alors là, super, on en a eu pour le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques.
Et même Macron, il n'avait pas prévu ça. petit enfoiré. Enfin, voilà. Donc, nous allons vous parler de, bien sûr, de l'écologie, avec la bannière que Elsa vous lira, peut-être deux, trois petits textes. Moi, je vous lirai un papier sur M. Bolloré, qui est un fervent admirateur de l'extrême droite, dont il fait partie, et dont toutes ses chaînes auditives, télévisuelles et presse étrangère et presse aussi pour enfants, qui est tout tombé sous le joug de l'extrême droite. Et pour vous dire, j'ai connu le Journal du Dimanche avant que Bolloré prenne la suite, et vraiment c'était un journal qui était issu de France Soir. C'était le directeur de François à l'époque, Pierre Lazareff, qui a créé le JDD. Il n'y a pas de journaux le dimanche. Eh bien, on prend une équipe de François et ils ont créé le JDD. Depuis 1945 jusqu'à ce que Bolloré le reprenne, c'était vraiment un journal d'opinion qui servait énormément les gens pour savoir jusqu'au dernier moment qui ils pouvaient voter, pour ceux qui votent, bien sûr. Et à l'époque, ça donnait une idée assez concise. Mais même la plupart des journalistes, qui étaient aussi de droite, de gauche ou centristes, laissaient leurs opinions politiques de côté et ils faisaient de très beaux articles. Voilà. Donc, si un jour vous tombez sur un JDD des années 70-80, vous verrez que c'était de très très bons journalistes qui étaient dedans. Et je pense que si certains écoutent un peu Radio Libertaire, ce que je souhaite, et qu'ils se rappellent d'Ariel, ils verront que je suis resté toujours le même, toujours aussi revendicatif pour le journal du JDD que j'ai connu. Pendant au moins 35 ans avec eux. Donc, et ça me fait beaucoup de peine de voir comment il est tombé. Enfin bref, maintenant, Elsa, tu veux commencer avec la bannière ?
Oui, l'édito. L'édito écrit par le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard.
Ok, on t'écoute.
Défendre toutes nos valeurs. Greenpeace a pris position contre la loi Asile et Immigration en toute fin d'année dernière. Nous avons également participé au rassemblement organisé partout en France pour s'opposer à un texte jugé indigne et dangereux. Nous l'avons fait car la générosité et la solidarité font partie de nos valeurs, au même titre que l'indépendance et la non-violence. Au cours de son histoire, Greenpeace a toujours rejeté l'intolérance et toute forme de racisme et de repli sur soi. Notre organisation souhaite la mise en place de politiques d'accueil pour celles et ceux qui souffrent et doivent quitter leur pays. Le changement climatique est devenu la principale raison des déplacements de population, d'abord dans leur propre pays et aussi à l'étranger. L'Observatoire des situations de déplacement interne a estimé que 32 millions de personnes pouvaient être considérées comme des déplacés climatiques en 2022, et ce chiffre pourrait monter à 260 millions en 2030. La question des migrations est liée à la question écologique. La montée de l'extrême droite, notamment en Europe, nous concerne au premier chef. Les partis incarnant ces valeurs s'opposent systématiquement à toute avancée écologique. Ils n'ont pas soutenu au Parlement européen les mesures favorables à une meilleure protection de notre environnement. Les élections européennes à venir sont cruciales à cet égard. Donc c'était l'édito.
Je vais vous lire un texte qui parle aussi de Bolloré, sa bataille culturelle et le laisser-aller de l'État. C'est de la part de Younes Abzouz, journaliste à Mediapart et chargé des médias. Tout ça, c'est des tartes à la crème. Je ne suis jamais intervenu dans le contenu. Voilà ce que Vincent Bolloré a persisté et signé ce mercredi 13 mars devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT. Jamais, a-t-il assuré, il ne s'est mêlé de questions éditoriales dans les différents médias qu'il possède. D'ailleurs, à l'entendre, ce ne sont même pas ses chaînes, mais celles de son groupe Vivendi, où il n'est plus rien, si ce n'est l'actionnaire ultime. Pourtant, ce constat ne peut souffrir d'aucune incontestation. Bolloré transforme tous les médias qu'il touche en support de diffusion de ses obsessions identitaires. Et les exemples qui le prouvent sont nombreux. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter quelques minutes Europe 1, que le milliardaire a repris en 2021 et qui s'est progressivement rapproché de la ligne éditoriale de sa grande sœur CNews, jusqu'à se confondre avec elle, et d'ouvrir une fois le journal du dimanche, défiguré depuis l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles. Même à Touche pas à mon poste, l'émission amusoire de Cyril Hanouna, censée être ouverte à tous, a été remaniée au service de la bataille culturelle menée par Bolloré. Sous couvert de divertissement, elle est devenue un vecteur habile de la banalisation des extrêmes droites qui y défilent régulièrement, voire y tiennent chronique. Dernière victime en date de cette offensive, la maison d'édition Fayard, en passe d'être récupérée par l'éditrice historique d'Éric Zemmour après l'éviction de sa patronne Isabelle Saporta. Que faire pour contrer cette emprise tentaculaire et grandissante? Comment empêcher la constitution d'un immense empire de presse, sorte de Fox News à la française, diffusant en continu les idées les plus rances, xénophobes ou ouvertement racistes? Avant de fournir quelques éléments de réponse, un constat s'impose. Vincent Bolloré mène son entreprise idéologique avec le concours de la puissance publique. Ses principaux canaux de propagande occupent toutes les fréquences radio ou télé gracieusement mises à disposition par l'État. Une gratuité qui ne devrait pas venir sans contrepartie, car en échange de l'exploitation de ces biens publics, les chaînes se doivent de respecter les règles élémentaires de pluralisme, d'honnêteté, d'indépendance de l'information. Des règles que CNews et C8 transgressent régulièrement avec la plus grande facilité, comme l'atteste la cinquantaine de rappels à l'ordre et mise en demeure et autres sanctions qui leur a été adressée par l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel depuis le 19. On sait que Cyril Hanouna, on en a un sac à dos à son actif.
Y compris au niveau de harcèlement sexuel aussi.
Entre autres, c'est un agitateur agité.
Oui, oui.
Pas mal de sa tête. Mmh. Alors, il est clair que les mises en garde et les amendes ne suffisent pas à dissuader les récidivistes du PAF. L'apathie des autorités de régulation, autorités de la concurrence comprise, puisqu'elle a laissé se constituer des oligopoles médiatiques, sans dire un mot, a produit des médias où l'information est reléguée au second plan, quand elle n'est pas instrumentalisée au service des extrêmes droites françaises. Parce qu'il y en a plusieurs. Mmh. C'est pourquoi la puissance publique doit sauver de toute urgence la démocratie des faits contre la dictature des opinions. Voilà, c'est un texte de Younes Abzouz de Mediapart. Mm-hmm. Maintenant, je vais vous faire écouter le dernier disque de Dominique Grange, après son voyage qu'elle a fait avec son époux Jacques Tardy, oui, en Palestine. Et ce qu'elle a vu l'a tellement impressionné et tellement mis en colère qu'elle a fait un disque qui est « Détruisons le mur ». Et donc je vais vous faire écouter la primeur. Thank you.
dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela. Comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vaincra. Palestine vaincra.
Vous avez écouté le dernier disque d'une seule, c'est il y a une seule chanson de Détruisez le mur. C'est un texte qu'elle a écrit en 2019 et c'est sorti lors de certains des spectacles qui ont été faits pendant 4 jours à Couleur d'Orange et il est sorti aussi un livre avec un CD qui parle de 68-2008.
N'effacez pas nos traces.
Qui est le titre du film que notre copain
Pedro
Fidalgo qui assure aussi la technique de nos émissions aussi tous les jeudis. Voilà. Donc il y avait. Ça, c'est un truc que vous pouvez... J'espère qu'ils en ont déposé à Publico, 145 rue Hamelot dans le 11e, Maître République, Fille du Calvaire...
Ou Oberkampf. Oberkampf,
mais plutôt, faites Oberkampf et Fille du Calvaire, parce qu'à République, des fois, c'est bloqué à cause des chers casques durs de l'inautorité française.
Oui, voilà. En effet.
Donc, Elsa... Qu'est-ce que tu veux le lire ?
Alors, un édito écrit par Jade Lingard, la criminalisation des défenseurs de l'environnement, une menace majeure pour la démocratie.
Ok, on t'écoute.
Les éco-terroristes les plus stupides du monde. C'est ainsi que le businessman états-unien Elon Musk a réagi à l'acte de sabotage qui a visé la gigafactory de Tesla en Allemagne mercredi 6 mars. Quelques heures plus tôt, l'un des pylônes de la ligne à haute tension alimentant son usine au sud-est de Berlin a été incendié intentionnellement. Selon un message de revendication signé d'un collectif nommé Vulcan Group, « Nous avons saboté Tesla aujourd'hui. Notre sabotage a pour but de provoquer le plus grand blackout possible de la Gigafactory. » Si incendier volontairement une partie d'un réseau électrique reste un acte rare et isolé, l'accusation d'écoterrorisme s'entend partout en Europe. Elle est même devenue un réflexe inquiétant parmi les gouvernements au sujet d'actions militantes, pacifistes, y compris quand elles ne dégradent pas des biens, à la différence de l'action visant Tesla. Le rapporteur spécial des Nations Unies, Michel Forst, au titre de la Convention d'Aarhus, le texte onusien protégeant les défenseurs de l'environnement sonne l'alarme dans un rapport paru fin février. Dans un certain nombre de pays, dont l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, des personnalités publiques, en particulier des représentants de partis politiques, des membres du Parlement et même des ministres ont décrit des mouvements environnementaux comme une dictature et une menace pour la démocratie, ou ont qualifié des organisations et militants environnementaux d'éco-terroristes et les ont comparés à des organisations criminelles. Il remarque de plus que, dans de nombreux pays, la réponse de l'État aux manifestations environnementales pacifiques consiste de plus en plus à réprimer. Alors, arrestations, détention provisoire, amende disproportionnée, restriction des formes légales de manifestation. Cette criminalisation des défenseurs de l'environnement est une menace majeure pour la démocratie. Je vous prie de m'excuser.
À tout souhait.
Merci. Il expose une longue série d'exemples. En Italie, la loi éco-vandalisme de janvier 2024 prévoit une sanction allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour les dommages superficiels causés aux œuvres d'art et à leur matériel de protection. Au Royaume-Uni, une loi de 2022 permet d'interdire les rassemblements publics bruyants ou perturbateurs. S'attaquer à une autre personne ou à un bâtiment est devenu une infraction pénale. Un militant a été condamné à 3 ans de prison pour avoir bloqué un pont. En Irlande du Nord, des manifestants pacifiques contre l'exploitation minière ont été arrêtés pour avoir traversé la rue à un endroit interdit. Alors là, c'est vraiment du ridicule. En Allemagne, en Pologne, au Portugal et en Espagne, des manifestants ont été détenus de 9h à 7 jours pour de simples contrôles d'identité. En Suède, des actes auparavant qualifiés de désobéissance aux ordres de la police sont de plus en plus souvent considérés comme des actes de sabotage. En Allemagne, les autorités ont affirmé qu'en bloquant la circulation, des manifestants avaient exercé une coercition criminelle sur les conducteurs. En Pologne, des manifestants ont été accusés de coercition pour s'être collés au sol dans un bâtiment public. En Espagne, le procureur général a poursuivi pour dégradation du patrimoine historique des militants de Rebellion Scientifica qui avaient jeté de l'eau colorée sur le bâtiment du Congrès. La peine requise fut de 1 an et 9 mois de prison, d'emprisonnement.
Oh, il n'a fait que faire de la peinture, le pauvre monsieur.
Oui, mais il ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Ce rapport fait écho aux accusations du ministère de l'Intérieur français contre les soulèvements de la terre et leur dissolution, rejetées par le Conseil d'État, ou au harcèlement policier contre les écureuils perchés dans les arbres contre l'A69. Il révèle à quel point ces actes ne sont pas seulement la marque d'une stratégie nationale de montée de la tension, mais bien le révélateur d'une réponse partagée par de nombreux gouvernements en Europe. En pleine campagne électorale pour le Parlement européen, cette alerte devrait être prise au sérieux par celles et ceux qui ont à cœur de protéger les libertés publiques.
Sait-on pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé. C'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu,
la bête est revenue.
Voilà, j'espère que si les gens ont oublié cette chanson de Pierre Perret, vous pouvez toujours le retrouver dans son album « Mes chansons engagées ». Et bon, et ça date de quelques années en arrière. Déjà, c'était quand il y avait eu au second tour contre Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. C'est sûr que c'est à ce moment-là qu'il a dû sortir ce texte. Voilà, donc... réécoutez cette chanson et faites-le écouter aussi à vos enfants qui seront les prochains à être martyrisés à cause du SNU, que c'est la nouvelle nouvelle façon de devoir faire son service militaire. Il y avait un mot qu'on appelait ça, c'était circonscription.
Oui, circonscription.
Voilà. C'était à l'époque, j'ai connu ça, moi, dans les années 73. Hein. J'avais juste 20 ans. Hein. Je m'en suis sorti. Parce que j'avais un tympan abîmé et que je voulais faire radio. Et m'ont mis, non, on n'a pas besoin de vous. Bon, je vais vous lire un texte que m'a envoyé un de mes oncles, qui trouve toujours des sujets très intéressants. Mais là, ça vaut vraiment le coup. Ça nous rafraîchira quelques décennies en arrière. Voilà. 65 ans d'imagination fiscale et de mensonges. Heureusement qu'on a oublié, sinon cela nous plomberait le moral. À 95 ans, cette brave dame a la tête sur les épaules et est près de ses comptes. Elle a aussi très bonne mémoire en citant tous les intervenants gouvernementaux successifs qui l'ont trahi. La lecture vaut son pesant d'or. Très bien résumé la situation. De 56 à nos jours, 65 ans d'imagination fiscale et surtout de mensonges. Je me présente. Je m'appelle Micheline Sandy. Je suis né en 1927 et je vous le dis tout net, à force de tirer sur l'élastique, la corde va péter. En 56, quand Guy Mollet a instauré la vignette pour fournir un revenu minimum à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, bon, moi j'avais à peine 30 ans et j'étais très fier de pouvoir venir en aide aux anciens. En plus, Paul Ramadier, le ministre des Affaires économiques, avait affirmé que ce serait une taxe temporaire. Bah, le temporaire a duré 44 ans. Pendant 44 ans, j'ai payé pour cette vignette. Alors, merci. Surtout que les anciens n'ont presque jamais vu la couleur, vu qu'au bout de 3 ans, le Premier ministre, Michel Debré, a annoncé que le produit de la vignette sera finalement acquis au budget de l'État, qui le reverserait au Fonds national de solidarité. Enfin, en partie. En petite partie, que les vieux se fassent dépouiller comme ça, ça a fait du foin pendant toutes ces années, mais ça n'a jamais rien changé. Ensuite, en 1991, quand ils ont créé la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, pour financer la branche famille, en remplacement des cotisations patronales d'allocations familiales, bon, sans râler, j'ai payé. Surtout, que ça ne devait pas durer que 5 ans. Une contribution transitoire, comme ils disent. Et puis, 1,1%, c'est supportable. Simplement, 27 ans plus tard, elle transite toujours la CSG. Et elle a même grimpé à 9,2% pour les salariés et 8,3% pour les retraités. Parce que même les retraités comme moi, on paye encore la CSG. C'est inimable, alors que ça devait nous être reversé. Par étapes, bien sûr, c'est moins voyant. En 1993, elle est passée de 1,1 à 2,4 pour alimenter en plus le fonds de solidarité vieillesse. Il n'y en avait pas déjà la vignette pour ça. Chut, arrêtez d'être insolent. En 1997, elle augmente encore pour financer, en plus, la branche maladie. On en est à 3,4%. Pas grand-chose, pas grand-chose. En 1998, toujours pour la branche maladie, elle passe à 7,5%, etc., pour arriver à 9,2%. Hein. Vous voyez les étapes. Bref, la protection sociale ne s'est pas redressée et ce qui devait être temporaire est devenu un impôt de plus. Ah bah oui, la CSG, ça apporte plus que l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Si on vous demande combien vous payez d'impôts par an, vous savez le dire. Mais si on vous demande combien vous payez de CSG, vous savez, chez moi on disait, c'est tout un art de plumer loi sans le faire crier. Alors, qu'il aurait de quoi hurler. Et en 96, rebelote avec le CRTS, la contribution à la réduction de la dette sociale. Ils aiment bien faire des mots comme ça en petites lettres. J'ai payé, mais j'avoue, j'ai râlé. À cette époque, les déficits sociaux s'élevaient à un montant estimé à 30 et 38 milliards d'euros. Très bien, le taux de la sécu. Oui, parce que nous, si on se trompe de 10 euros dans notre déclaration de revenus, on risque une amende, mais eux, un fou de 8 milliards, ils ont droit. Toujours est-il qu'ils avaient tout bien calculé. En 13 ans, tout serait remboursé. Le CRDS devait disparaître le 31 janvier 2009. Et nous sommes en 2024. Mais voilà-t-il pas qu'en septembre 1997, le gouvernement Jospin annonce 13 milliards d'euros supplémentaires de dettes, qui correspond aux déficits sociaux non financés des années 96 à 98. Ah, ils ont fait un retour en arrière, là. Alors, ils ont tout bien recalculé. Finalement, pour tout éponger, il fallait prolonger jusqu'à 31 janvier 2014. Mais voilà-t-il pas qu'en 2004, le plan de redressement de la sécurité sociale concocté par M. Philippe Douste-Blazy annonce 50 milliards d'euros supplémentaires de dettes à rembourser. Alors, ils ont tout bien recalculé et ils ont vu que, finalement, la Trinité était la meilleure des dates pour arrêter le CRDS. Donc, on la paye toujours. Et puis, en 2004, Raffarin a inventé la journée de solidarité, vouée à l'autonomie des personnes âgées. Moi, ça va, j'étais déjà à la retraite. Mais vous avez travaillé sans être payé. Et en 2013, une nouvelle taxe pour les retraités, la CASA. Ça s'appelle la contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie. 0,3% sur les retraites, pensions d'invalidité, allocations de pré-retraite. C'est-à-dire qu'ils font payer les vieux pour que les vieux soient autonomes. Allez, les jeunes vieux pour les anciens vieux. Ah, là j'ai compris. Mais c'est pas du bon foutage de gueule, ça. Et on continue. En 2013, toujours avec M. Jean-Marc Ayrault, nous gèle les retraites complémentaires. Et comme ça ne s'arrête jamais, maintenant, parce que j'ai 1247 euros de revenus fiscaux par mois, j'ai une augmentation monstrueuse de la CSG, 25% d'augmentation. Eh bien oui, on nous a dit 1,7, mais ce n'est pas 1,7 de ce qu'on payait. C'est le taux qui augmente de 1,7. Bref, nous les vieux, on est passé de 6,6% à 8,3% de CSG. Ça nous fait 25% dans les dents. Enfin, celle qui nous reste. Et maintenant, la cerise sur le pompon. On nous annonce que nos retraites vont être revalorisées de 0,3%. C'est-à-dire un paquet de cacahuètes. Hein ? 5 fois moins que l'augmentation dont on aurait dû bénéficier si le code de sécurité de la sécurité sociale avait été simplement respecté, puisqu'il prévoit que les pensions soient revalorisées du montant de l'inflation moyenne sur l'année, pour éviter toute dégradation du niveau de vie. Et l'inflation prévue d'après l'INSEE était de 5,2 en 2022, après celle de 1,6 en 2021. Bruno Le Maire, tiens, je pense que c'est un enfoiré qui est de gouvernement en ce moment, ose dire sur RTL, mais ils ne seront pas perdants. Leur pension de retraite continuera à être revalorisée. Ils croient qu'on est tous gâteux ou quoi ? Je n'ai que mon certificat d'études, mais il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'une hausse de 1,1 des pensions en janvier 2022 et une revalorisation de 4% au 1er juillet 2022, quand les prix augmentent de 5,2 après celle de 1,1 en 2021, revient à une baisse du pouvoir d'achat. D'après le baromètre de l'Institut ELAB, publié le 6 septembre, 72% des retraites déclarent ne pas avoir confiance dans leur chef d'État, alors qu'ils étaient 44% en janvier et 35% lors de son élection. Ça augmente. Si tout pouvait augmenter comme ça, ce serait mieux. Alors, on se demande vraiment pourquoi un type qui, pour se faire élire, déclarait à Jean-Jacques Bourdin en décembre 2016 « L'engagement que je prends ici devant vous, c'est que, avec moi, toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé !» Et sur RMC, encore en février 2017, « Je ne veux pas, moi, faire d'économie sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. » Et aux 20h de France 2, en mars 2027, donc un mois après, « Je ne touche pas la retraite de celles et de ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée. Il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. C'est l'essentiel. » Non, il n'y aura pas. Alors, je pose la question. 72% des Français n'ont pas confiance. Comment est-ce possible ? Comment peut-il se trouver encore 28% de retraités qui lui fassent confiance ? Et aussi, que penser des 700 000 migrants qui rentrent en France par an, les mains dans les poches, et des aides leur tombent en veux-tu, en voilà ? Ah oui, c'est ce qu'on aurait dû donner aux vieux pour qu'ils puissent s'établir. Voilà. Toute ma vie, j'ai payé pour aider les vieux, et maintenant que je suis vieille, il faut que je paye pour aider les jeunes. Que vont-ils nous inventer encore ? Donc, si je pouvais envoyer ce truc-là sur un réseau social pour que tout le monde puisse le relire, ce serait vraiment bien. Parce que la situation est vraiment très pénible. Et voilà quelqu'un qui va pouvoir nous dire quelque chose de plus sympathique.
Il pleut, il pleut, il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons. Envolé les machines, au Maroc ou en Chine. Et nous là, comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus. Qu'on allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains condamné à la casse. Tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance, avec des jolis mots: égalité, justice, solidarité. Dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir, mais tu les as trahies dès que tu as eu le pouvoir. voit. Il pleut, il pleut, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut, il pleut, il pleut. Dégage, 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 dégage. Des sans-droits, des sans-voix, des damnés de la terre, des Roms désignés comme bouc émissaire, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur, aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde-là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Allez, qu'ils s'en aillent tous, rentre tes noirs moutons, tes éminences grises et tes voyous patrons, les gardiens de ton ordre, les faillots de ta cour, et les écrivaillons qui pondent tes discours. Ô ministres zélés, sinistres exécutants, ni oubli ni pardon pour la chasse aux enfants. Abat les lois racistes, abat les circulaires, les contrôles aux faciès pour remplir vos charters. Il pleut, il pleut, il pleut, y aura pas de rattrapage. Dégage, 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 dégage. Remballe ton triple A, ta dette et tes marchés, ta bourse et tes traders, tes parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre monde est possible, et nous n'acceptons pas d'être des invisibles. Car nous sommes le peuple, celui qui crée l'histoire, fils de 89, rebelles et communards, dont les insurrections ont forgé nos consciences, un peuple qui se lève et entre en résistance. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage.
Voici un texte de Dominique Granche qui date de 68 et qui est tout à fait inédit. C'est dans son disque que j'ai eu avec le Détruisez le mur, Notre longue marche. Et je ferai écouter tout à l'heure une version du Déserteur et le dernier couplet et la première version que Boris Vian avait écrite du Déserteur. Il faut que vous écoutez bien la fin de la chanson, le dernier couplet, qui est très intéressante. Mais avant ça, c'est elle, ça.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, pour ceux qui prennent le métro et pour ceux qui regardent les bus passer ou qui les prennent, vous avez vu qu'il y a des affiches concernant la carte avantage SNCF. Ça, c'est pour dans le métro. Et en se rendant au studio, j'en ai vu à la station Anvers. Et sur les bus, il y a le panneau publicitaire pour Trenitalia, le nouveau service de train France-Italie. Eh bien, cela m'a inspiré un coup de griffe. Quel engouement pour le train! Mes économies me permettent enfin d'acheter des billets de train pour partir en vacances avec papa. Quelle joie de se rendre en Italie! Quel bonheur de voir la région des Pouilles! Mon cœur bat la chamade en pensant que je verrai bientôt Joelle et que je présenterai papa à sa famille. Enthousiaste, euphorique, je me rends sur le site internet de la SNCF pour réserver le voyage de Paris jusqu'à Bari Centrale. L'allée passe en douceur et ma carte avantage me fait bénéficier de réductions pour mon père et moi sur le prix. Allégresse, je suis sur un nuage rose. Patatras, que se passe-t-il? Comment cela? Pas de voyage disponible pour la date de retour. Je modifie la carte d'arrivée en mettant Fasano. Pas de voyage du tout. Je change en écrivant le nom Brindisi. Même histoire, pas de voyage de retour. Je me connecte au chat pour contacter un conseiller. File d'attente, veuillez patienter s'il vous plaît. Non sans difficulté, je trouve le numéro de téléphone de la SNCF. Pip! Billet, loisir. Toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler plus tard, ou bien patienter s'il vous plaît. Un conseiller répond enfin sur le chat. L'achat des billets aller-retour se fait par rapport de symétrie. Si vous prenez un TGV pour partir, il faut qu'il y ait un TGV pour revenir. Et comment fait-on lorsqu'on ne voit que l'aller et pas le retour? Respire ma belle, tu peux le faire. Je décide d'acheter les billets indépendamment. Tant pis si le prix est plus cher, je m'en doutais bien pour être sincère. Je choisis le wagon du bas et pour les places assises, le duo côte à côte. Je valide. Erreur technique, veuillez réessayer plus tard. Monsieur le président de ce qui reste de la République et monsieur le premier ministre de ce qui reste de la Constitution démocratique, vous qui prenez tellement l'initiative pour que les citoyens aient une conduite exemplaire, montrez l'exemple en débloquant des fonds monétaires afin que la SNCF puisse embaucher des salariés et augmenter les salaires de ceux qui se décarcassent sur place. Cela évitera les grèves de cheminots, notamment ce mois d'avril et au mois de mai, parce qu'il y en aura des grèves de cheminots à la SNCF. Et si vous souhaitez encore plus remonter dans l'estime des Français, bloquez les prix des vols d'avion, arrêtez les vols de nuit et interdisez à vos autres ministres d'utiliser leur jet privé pour leurs voyages. Voici une bonne série d'initiatives en faveur de la Terre.
Merci à toi.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. J'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre. Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer, et que je sais tirer.
Et vous avez bien entendu le dernier couplet. Eh bien, c'est normalement, à l'époque, Boris Vian, bien qu'il soit connu, a estimé que si vous voulez continuer dans la chanson, comme ça, un petit peu qu'elle chante, il fallait quand même qu'il mette un tout petit peu d'eau dans son vin. Mais je pense que les autres interprètes, dont Mouloudji, entre autres, auraient pu le remettre en état. Mais vu les gouvernements qu'il y a eu à l'époque de Gaulle, Pompidou et tous les autres, il aurait fallu qu'après 68, que cette version soit chantée avec ce couplet. J'aurais une arme que je sais tirer. Parce qu'il ne va pas se laisser abattre comme un lapin, le déserteur.
Oui, en tout cas, Jean-Louis Trintignant, qui avait lu le déserteur, il l'avait lu avec ce couplet à la fin. On a eu l'occasion, je ne sais pas si tu t'en rappelles, papa, de l'écouter. Il lisait des textes de Gaston Couté et il avait rajouté ce texte-là de Boris Vian avec ce couplet et avec son timbre de voix grave et toute l'émotion qu'il met dans cette lecture. Je m'en rappelle encore, ça fait des frissons dans le dos, ça montre bien. Un homme, il a beau avoir tout perdu, il n'a pas envie de perdre la vie. Sa vie, c'est tout ce qui lui reste.
Et je vendrai chèrement ma peau.
Oui, et il tient à la garder, sa peau, vu que c'est tout ce qui
lui reste. Ce seront des Français qui tueront un Français.
Oui.
Et si cette même chose se passait en Allemagne, ce sera un Allemand qui tuerait un Allemand. Et dans n'importe quel pays, tous les déserteurs, s'ils peuvent arriver à les tuer, ce sont leurs propres compatriotes qui les tuent. Et c'est ça que...
C'est ça, oui.
On a beau avoir aboli la peine de mort en France, mais...
Il y a d'autres moyens.
Mais l'armée, maintenant la France, elle exporte la guerre vers l'extérieur. Quand je dis exporter, c'est toutes les armes qu'ils ont encore dans leur casemate, tout ça, et avec des nouvelles qu'ils préparent derrière, ils épuisent tous les stocks d'armes qu'ils ne peuvent pas déverser sur le sol, en envoyant nos soldats là-bas, à moins que, grâce à la nouvelle conscription du SNU. Peut-être ils ont bien dit. Si les gens ne prennent pas garde, eh ben ce sont vos propres enfants ou vos propres neveux et nièces, ce sont filles et garçons qui vont être là-bas.
Ben oui.
Et quand on voit que même parmi les policiers, il y a des filles, elles ressemblent à des femmes quand tu vois leur gueule, et quand elles marchent comme des mecs.
Oui.
Où est leur féminité ? Elles doivent avoir leur féminité au bout du casse-tête. Parmi les bracelets, les menottes, les gaz lacrymogènes, Le pistolet. Ah oui.
Pour être à l'égal des hommes, elles ont oublié qu'elles étaient femmes.
Voilà. Je vais vous lire ce que j'ai reçu, le truc de sauvegarde retraite. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de ça depuis 2016. Alors, c'est un truc qui a été envoyé, j'ai reçu pour dire que cette association se bagarre pour éviter que l'État détourne encore les retraites versées par l'ARCO et autre chose au bénéfice de l'État. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment séparé de l'État et qui gère la rétribution des retraites à ceux qui ont pu travailler 35 ou 40 ans. C'est-à-dire, il faut arriver à faire 40 ans de 40 ans de travail. Il faut mm-hmm. avoir commencé assez tôt, quand même. Mm-hmm. Oui. J'ai commencé à 17 ans, donc à 60 et quelques années, j'avais largement mon compte. Mm-hmm. Voilà. Donc, je vais vous lire ceci. Chers amis retraités, il y a urgence. Pouvez-vous me renvoyer immédiatement à la pétition ci-jointe pour rendre impossible toute attaque contre vos caisses de retraite et sécuriser votre pension? Car depuis des années, le gouvernement tente de s'en prendre aux caisses privées, que ce soit la retraite de base, la CNAV ou la complémentaire, pour financer la retraite du public. Laissez-moi vous raconter le combat difficile que Sauvegarde Retraite, au pluriel, vient de mener pendant de longues années pour empêcher le gouvernement de détourner les cotisations de votre caisse complémentaire. Le gouvernement voulait interdire l'AGIRC ARCO, la principale caisse complémentaire du privé, de collecter elle-même les cotisations de ses affiliés. Les cotisations prélevées directement par l'URSSAF seraient tombées dans le pot commun de l'État. Ça rappelle un peu que la petite dame de 95 ans.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Une fois les fonds sous contrôle, il lui aurait suffi de quelques tours de passe-passe budgétaire dont il a l'art pour détourner les cotisations des complémentaires de leur fin initiale. Afin de financer notamment les privilèges des régimes spéciaux du public, estimés à quelque 20 milliards par an, qui creusent l'essentiel, je dis bien l'essentiel, du déficit de la retraite. Un véritable hold-up sur votre complémentaire. Tout ça pour payer des avantages éhontés, comme le départ à la retraite précoce, 5 ou 10 ans avant les autres. Des fonctionnaires actifs ou des agents d'entreprises publiques, leur reversion sous condition ou encore une pension moyenne à la RATP presque 3 fois plus élevée que dans le privé. Tiens. L'association Sauvegarde Retraite, nous nous sommes battus sans relâche contre ce projet scandaleux. Il fallait tout faire pour sauver votre retraite complémentaire. Inlassablement, nous avons interpellé le président de la République, les responsables de l'AGIRC ARCO, les journalistes, les parlementaires, et la pression est devenue si forte que le gouvernement a fini par capituler. C'est rare. Mm-hmm. Mais il capitule, mais il cherche autre chose pour rebondir, à tous les coups.
Oui.
C'est le ministre du Travail qui l'a annoncé lui-même lors d'une conférence de presse en janvier 2023. Et nous sommes restés extrêmement vigilants jusqu'à ce que les textes en vigueur soient bien rectifiés, comme promis, en décembre dernier. Ainsi, nous avons échappé au pire pour nos complémentaires. Mais si nous sommes arrivés à déjouer cette tentative gouvernementale de pillage des retraites du privé pour financer celles du public, d'autres suivront à coup sûr. C'est pourquoi nous devons absolument empêcher toute cette nouvelle attaque définitivement. Et le seul moyen d'empêcher ces pillages de votre retraite, c'est de faire passer une loi qui les interdise purement et simplement, une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que je vous demande de me renvoyer votre pétition ci-jointe à l'intention des présidents de groupe de l'Assemblée nationale le plus vite possible. Ce sont eux qui ont la main sur l'agenda de l'Assemblée. pardon, ils peuvent reprendre la proposition de loi pour garantir l'intégrité des retraites du privé portée par notre association et les faire inscrire à l'ordre du jour pour la faire voter. Avec votre aide, je dois donc collecter assez de signatures pour faire comprendre aux députés qu'il devient absolument crucial de protéger l'argent de nos retraites par une loi. Je veux présenter au président de groupe à l'Assemblée nationale des dizaines et dizaines de milliers de pétitions, car c'est un langage que les élus comprennent. Votre soutien sera décisif. Pour y parvenir, j'ai besoin que vous me renvoyiez vite cette pétition 6 jointe signée. C'est ce que j'ai fait. Mais je vous donnerai l'adresse de la retraite. Et j'espère qu'avec votre pétition, vous pourrez joindre un don à notre association pour nous permettre de mobiliser un maximum de retraités à travers toute la France. Ça, c'est facultatif. C'est indispensable pour être suffisamment nombreux pour faire pression efficacement sur les groupes parlementaires à l'Assemblée et faire adopter notre proposition de loi destinée à empêcher tout pillage de nos caisses de retraite. L'envoi d'un message d'alerte coûte 67 centimes. Si vous pouvez envoyer un don de 30 euros avec votre pétition, vous nous permettrez d'alerter 45 retraités immédiatement. 75 retraités si vous envoyez 50 euros et 220 si votre don est de 150 euros. En moyenne, les gens nous adressent, 27 euros. Quel que soit le montant du don que vous déciderez de faire à Sauvegarde Retraite, votre signature aujourd'hui et votre don seront déterminants. Car la générosité des retraités comme vous, prêts à s'engager pour défendre leur pension du privé, est de la seule ressource dont nous disposons pour mener à bien ce combat vital pour la retraite des millions de Français. Et quand on se bat tous ensemble avec acharnement, on gagne. Comme le prouve la victoire extraordinaire que nous avons arrachée après 2 ans de combat. Aujourd'hui, ensemble, nous devons absolument empêcher toute nouvelle attaque sur nos caisses de retraite. Sinon, vous et moi, et des millions de retraités du privé, nous serons sacrifiés et subirons une baisse drastique de nos pensions, après toute une vie à travailler et à cotiser. J'attends avec impatience votre pétition signée, accompagnée du meilleur don que vous pourrez faire pour obtenir une loi sécurisant les retraites du privé. Madame Marie-Laure Dufraîche, déléguée générale. Alors, l'adresse de Sauvegarde, vous avez une adresse internet, www.sauvegarde-retraite-au-pluriel.org. Et leur adresse est 53 rue Vivienne, 75 105 Paris Sedex 02, et le téléphone 01 43 29 14 41. Je répète, 01 43 29 14 41. Voilà. Un petit peu de musique.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belles à votre propre désigné. Alto con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs. Vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'il la saute, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête. Vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort aux cons. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans, c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans, on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète, pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons. Halte aux cons.
Alors, un texte de Lycan. L'horloge de l'Apocalypse affiche 90 secondes avant minuit. Chères toutes, chers tous, la mode est au réarmement selon l'expression du chef de l'État. La dissuasion nucléaire ne fait pas exception puisque son budget ne cesse d'augmenter avec un montant officiel annoncé de 6,350 milliards en 2024 contre 5 635 milliards en 2023. Étonnement, ce réarmement, notamment au niveau industriel ou civique, provoque des questionnements. Mais celui concernant la dissuasion nucléaire et le renouvellement complet de l'arsenal reste dans un état de mort cérébrale. Pourtant, les conséquences humanitaires catastrophiques en cas d'emploi de ces armes de destruction massive ne cessent d'être expliquées par les scientifiques. Pour matérialiser ce danger, ils ont créé en 1947 l'horloge de l'Apocalypse, comme symbole de la proximité de la fin de la vie sur Terre suite de la détonation d'armes nucléaires. Depuis le 23 janvier 2024, l'horloge est à 90 secondes de minuit. Un temps qui, pour la seconde année depuis sa création, est le plus proche de la fin du monde. Des secondes qui traduisent bien notre situation. Le retour d'une course aux armements nucléaires via les programmes de renouvellement et de modernisation de chacune des 9 puissances nucléaires. Des menaces nucléaires régulières, notamment par la Russie, en Ukraine. Voire même par un ministre israélien. Le chantage nucléaire, là encore par la Russie pour mener une guerre conventionnelle et freiner le soutien des alliés. L'absence d'actions concrètes à hauteur des enjeux pour agir contre le dérèglement climatique. Ensemble, nous pouvons agir et faire évoluer positivement cette situation. Les victoires passées de la fin des essais nucléaires à l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires en sont des exemples, ont permis de diminuer les risques. Transformons ensemble notre société pour construire nos vies sur des projets durables et non sur une insécurité nucléaire. Pour créer une vaste opinion publique en faveur du désarmement, nous avons besoin de vous et nous vous proposons de faire signer votre ville pour soutenir le TIAMN sur le site de l'ICAN. Toujours sur le site de l'ICAN, interpellez votre parlementaire qui a voté des milliards en faveur des armes nucléaires. Proposez à nos campagnes des actions pour informer l'opinion publique de ces sujets. Participons toutes et tous à cette action vitale pour nos générations et celles du futur. La Polynésie a été le théâtre de 193 essais nucléaires atmosphériques et souterrains à Moruroa et à Fangataufa entre 1966 et 1996, créant des conséquences environnementales majeures sur ces atolls, comme sur Ao, une base militaire. La population, et ce même sur l'île de Tahiti, a aussi été directement mise en danger. Près de 30 ans après le dernier essai nucléaire, les populations s'interrogent. Pendant combien de temps seront-elles encore des victimes? Quels sont les risques sanitaires pour les générations futures? Sur le site de l'ICAN, vous pouvez découvrir la nouvelle BD « L'histoire des essais nucléaires en Polynésie ». Il y a tout juste 28 ans, le 27 janvier 1996, dans les profondeurs du lagon de Fangataofa en Polynésie française, Maunui, la France réalise son 210e et ultime essai nucléaire et le 193e sur ce territoire. La Polynésie est devenue entre 1966 et 1996 le terrain de jeu radioactif de la France, qui a dû quitter pour cause d'indépendance l'Algérie, après avoir réalisé 17 essais nucléaires entre 1960 et 1966. Contrairement à ce que la France va affirmer pendant des décennies jusqu'en 2006, les essais nucléaires n'ont pas été propres. Entre absence de protection des populations et des militaires, mensonges sur le taux des retombées radioactives, rejet massif des déchets nucléaires dans l'océan, revivez ces pages d'histoire dans notre nouvelle bande dessinée. L'histoire n'est pas terminée car les populations peinent à obtenir certaines vérités, notamment face au risque de transmission de maladies radio-induites entre les générations. Bonne lecture et n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou Instagram. Toujours sur l'ICAN, 81 villes, objectif 100 villes en 2024. La ville de Poitiers a décidé de signer l'appel des villes de ICAN, à l'occasion du 3e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN. Une démarche symbolique pour soutenir la pacification des rapports entre les États et la protection des populations civiles, ce qui en fait la 80e ville signataire en France. Poitiers devient ainsi la 80e ville de France à signer cet appel et la première du département de la Vienne. Mais nous avons d'ores et déjà franchi ce chiffre de 80 puisque le maire du village de La Barcadère, 290 habitants, nous a fait parvenir aussi son soutien. Cette diversité entre villes et villages montre une prise de conscience commune sur la nécessité d'envoyer un message au président de la République face à ce risque nucléaire. Notre objectif pour la fin de l'année est d'atteindre le nombre de 100 villes signataires. Nous avons besoin de vous pour parvenir à cet objectif. Toute la démarche pour agir est disponible sur le site de l'ICAN. Travaillons ensemble pour arriver à ce succès. Alors, l'actualité du TIAN. Depuis le 15 janvier 2024, Sao Tomé et Principe est devenu un nouvel État parti. Le TIAN compte ainsi 70 États partis et 93 États signataires. Quelques données sur les États membres ou signataires du traité. Alors, en Afrique, il y a 16 États partis et 17 autres signataires. Dans l'Union européenne, il y a 3 États partis, l'Autriche, l'Irlande et Malte. Sur le territoire européen, il y a 2 États partis, Saint-Marin, Saint-Siège et un signataire, le Liechtenstein. 3 États partis ont eu des armes nucléaires sur leur territoire, Afrique du Sud, Cuba, Kazakhstan. 6 États partis ont un partenariat avec l'OTAN, l'Autriche, l'Irlande, Kazakhstan, Malte, Mongolie, Nouvelle-Zélande. Pour cela, lire la lettre parlementaire spéciale du TIAN sur l'ICAN. Nations Unies, seconde réunion des États partis du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Dans notre première newsletter de l'année, nous vous encourageons à interpeller la presse locale ou nationale. Vous avez été nombreux à le faire et souhaitons vous remercier pour ces actions. À l'occasion du 3e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le 22 janvier, de nombreuses organisations membres de notre campagne ont agi pour célébrer cette date importante et pour faire connaître le TIAN auprès de nouvelles personnes. Dijon, 18 janvier, le collectif Bourgogne-Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires a réalisé sa 48e vigie mensuelle à Dijon, près de Valduc. Quimper, 20 janvier, le collectif finistérien pour l'interdiction des armes nucléaires, CIAN 29, a réalisé le ciné-débat avec le film « L'homme qui a sauvé le monde ». Marseille, 22 janvier, le comité départemental des Bouches-du-Rhône du Mouvement de la Paix a présenté une exposition « En finir avec les armes nucléaires », puis organisé une conférence « Avancer ensemble vers l'abolition des armes de destruction massive nucléaire ». Lyon, 22 janvier, l'Observatoire des armements et le Mouvement pour une alternative non violente, MAN Lyon, ont organisé un rassemblement sur la place Carnot. Paris, le 2 février, abolition des armes nucléaires, maison de vigilance a tenu sa vigie mensuelle devant le ministère des Armées. Donc, Et l'ICANN a aussi besoin de dons ponctuels ou réguliers. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur leur site.
Merci beaucoup, Elsa. Là, nous approchons de la fin de l'émission. Il est 19h20. À moins que tu aies un petit texte encore de la bannière à nous lire avant que nous passions le générique de fin.
L'étau se resserre autour de Total.
Oui, ça c'est important. Oui. Parce que lui, c'est un gros pollueur.
Ah oui. Pollueur et fournisseur d'armes, il fait les deux.
Entre autres.
Total Energy, qui fête ses 100 ans en 2024, cristallise de plus en plus les critiques de la société civile. Cerné par plusieurs procès, le groupe a intenté une poursuite Bayon contre Greenpeace France afin de museler l'association. Les bénéfices exorbitants annoncés en février dernier par les majors pétro-gazières européennes, BP, Shell, Total Energy, prouvent que leur business model reste bien en place. Détruire la planète au moyen de l'extraction d'énergie fossile reste une activité très lucrative, en dépit de ses effets destructeurs et de l'urgence climatique. Face au cynisme, de nombreux commentateurs, ONG et scientifiques en tête, ciblent la responsabilité de l'industrie fossile dans la crise climatique. Jour après jour, les activités climaticides ou bombes climatiques de ces multinationales font la une des journaux, à l'instar du projet EACOP de Total Energy, un oléoduc géant qui reliera les forages pétroliers d'Ouganda à la Tanzanie. Parallèlement, la société civile s'organise pour exiger la régulation de ce secteur et demander des comptes à ces super pollueurs en taxant leurs super profits. Le rapport de force entre les tenants du statu quo et celles et ceux qui militent pour une transition juste et écologique ne cesse de se durcir. Ainsi, Greenpeace s'est récemment vu attaqué par plusieurs grands groupes pétroliers en Europe. En Grande-Bretagne, Shell menace de demander près de 8 millions d'euros à l'association, tandis qu'en Italie, ENI a engagé une procédure qui pourrait aboutir à un procès en diffamation contre Greenpeace Italie et une association alliée. En France, l'affaire remonte en avril 2023 lorsque Total Energy assigne Greenpeace France pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. En cause, la publication d'un rapport dans lequel nous présentions un calcul estimatif des émissions de gaz à effet de serre du groupe qui serait bien plus élevé que celle officiellement déclarée. Total Energy demande au juge d'ordonner la suppression pure et simple du rapport de Greenpeace et de toute mention y afférent. Pour Greenpeace France, cette procédure s'apparente à une poursuite Bayon visant à la censurer sur un sujet d'intérêt général et à étouffer toute critique de son bilan carbone. La procédure suit son cours. Ces tentatives d'intimidation sont à la fois inquiétantes et inacceptables, mais elles sont aussi le signe que l'étau se resserre autour des géants pétro-gaziers dont l'image est de plus en plus entachée. À mesure que la crise climatique progresse et devient palpable dans notre quotidien, les regards se tournent vers les responsables. La question de la responsabilité est aussi au cœur de la commission d'enquête lancée en début d'année par le Sénat, intitulée « Commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Energy des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France ». Visant à faire toute la lumière sur les activités du groupe et leur retentissement sur la crise climatique ou l'équilibre des pays où elle extrait des énergies fossiles, cette commission doit aussi se pencher sur le rôle des responsables politiques en tant que garant des engagements climatiques de la France. La stratégie climaticide de la multinationale et le laisser-aller politique actuel sont ainsi directement mis en cause en haut lieu. Durant 6 mois, des scientifiques, des salariés du groupe ou encore des représentants de l'État sont amenés à témoigner devant le Sénat. Le groupe devra notamment répondre de sa politique expansionniste et de ses investissements massifs dans le pétrole et le gaz qui font de lui l'un des premiers responsables mondiaux du dérèglement climatique. La nécessité de mettre en place des politiques publiques ambitieuse pour encadrer le secteur sera également au cœur des débats. Quoi qu'il en soit, on peut se réjouir que le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, après avoir été décoré de la Légion d'honneur par le président Macron l'été dernier, soit aujourd'hui dans le viseur de cette commission, ainsi que les activités de son groupe.
Mal.
Oui.
Il prend que des escrocs dans son gouvernement. Hein.
C'est surtout un scandale sur les conditions de remise de la Légion d'honneur.
Exact. Et bien, sous ces bonnes paroles, nous allons vous laisser en compagnie de Boris Vian.
Oui.
Et on vous souhaite de rester toujours le poing levé et surtout pas lâcher la patate. Et surtout, ne laissez pas les professeurs ou directeurs d'école ou autre chose de convaincre vos enfants de faire le SNU. Surtout, vous avez le droit de ne pas mettre l'uniforme. C'est un droit que Louis Lecoing a gagné à l'époque du général de Gaulle après une longue grève de la faim.
Oui.
Donc, c'est dans la Constitution, vous pouvez...
Oui, l'objection de conscience, vous avez le droit d'être un objecteur de conscience.
Voilà. Eh bien, à jeudi prochain pour d'autres nouvelles aventures.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
J'en suis triste avec le sourire, quand je pense à toi, je t'aime. J'aurais tellement aimé vous suivre, vous vouliez que je nous emmène. Je reste seul à me survivre, suis encore à vous, je vous aime.
Un lion qui tombe en amour pour une demoiselle. Il lui tient tant de beaux discours qu'elle n'est point cruelle. Elle lui trouve poil luisant, belle stature, œil conquérant.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM Paris et évidemment maintenant en DAB+, c'est-à-dire la nouvelle norme numérique, en sachant que c'est le DAB+, c'est uniquement sur Paris, région parisienne. N'oubliez pas de télécharger la souscription, nous avons besoin de votre soutien, vous allez sur le site de la radio, vous faites Radio Libertaire. N'oubliez pas non plus le numéro du studio 01 43 71 89 40. Si vous avez besoin d'informations, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr pour une playlist, etc. Mais en général, je mets tout sur ma page Facebook Yves Jazz Libre l'émission, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous rappelle également que jeudi prochain, je vous le redirai en cours de route, qu'il y a une nouvelle émission que nous avons inauguré le mois dernier, qui s'appelle GMC+, c'est-à-dire Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Comme vous le savez, c'est une émission qui est consacrée aux compositeurs français de la fin du 19e jusqu'entre les deux guerres, car c'est un bouillon de culture absolument incroyable. Donc l'émission, c'est le deuxième jeudi de 20h30 à 22h. Voilà, mais là vous êtes sur Jazz Libre, Radio Libertaire, et nous sommes en direct des studios. Et nous allons démarrer avec une information. Alors, vous allez encore me dire, c'est vraiment la mauvaise série. Le batteur Albert Tutti If, vient de nous quitter aujourd'hui, à l'âge de quasiment 90 ans, je crois, pas loin. Donc, je n'ai pas eu le temps de préparer une nécro, ni spirituelle, ni pas spirituelle, mais je n'ai pas eu le temps de la préparer. Mais nous en parlerons lors de la prochaine...